Socialement, en fait, on a l'impression qu'en fait, un data scientist, c'est une superstar, et puis un data analyst, c'est un boulot un peu moins technique, un peu moins poussé, quoi. Je trouve ça assez ironique parce qu'en fait, pour que la data science marche, que les data algorithms et le machine learning marchent, il faut d'abord qu'on soit capable de faire de la bonne BI, de la bonne data analyse. Du coup, en sous-estimant, en sous-investissant sur ces fonctions BI, data analyse et aussi data ing, on se tire une balle dans le pied et on fait moins de la moins bonne data science à la fin.
Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Cette semaine, je reçois Victor Billette de Villemeur, Product Manager. Après 4 ans chez Bearing Point en tant que prestataire pour le secteur public, il est maintenant chez L'Oréal dans le département IT depuis 1 an. Il est également vulgarisateur sur LinkedIn avec 2 publications par jour sur le sujet PM et tech en général. Bonjour Victor.
Bonjour Marc.
Alors Victor, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste Product Manager chez L'Oréal dans le département IT exactement ?
Ouais, avec grand plaisir Marc. Ma Product Manager côté tech chez L'Oréal, c'est déjà un boulot de Product Manager en général. C'est-à-dire que du coup, tu vas interagir avec 3 grands mondes, le monde de la tech, le monde de la technique, les développeurs, les ingénieurs, les data scientists, pour délivrer des applications qui soient bien faites d'un point de vue technique. Tu vas échanger avec le monde des utilisateurs et de l'expérience, pour essayer de leur construire des applications qui soient bien intuitives, ergonomiques, bien faites et des jolies interfaces. Et puis du coup, tu as un troisième monde qui est celui du business. On essaie de construire des applications qui soient rentables, qui trouvent leur marché et donc qu'on puisse faire grandir dans la durée. Alors du coup, ça, c'est donc le boulot de Product Manager en général. Et alors, plus spécifiquement, moi, chez L'Oréal, ce sur quoi je bosse, c'est des applications métiers pour les employés de L'Oréal. Donc on est dans un contexte B2E, business to employee. Et donc, il y a certaines spécificités à ce boulot-là, donc on pourra y revenir. Mais une des spécificités que ça a, c'est qu'on essaye beaucoup, du coup, d'utiliser la data pour rendre les employés plus efficaces dans leur boulot de tous les jours. Donc, ce qui fait l'approche data-driven, c'est quelque chose qui nous anime et sur lequel on travaille pas mal.
Alors, dans ton cas, et en tant que product manager chez L'Oréal, la data, en quoi ça consiste, à qui ça sert, comment c'est géré exactement? Est-ce que tu peux nous donner un peu l'interaction que tu as au quotidien en tant que product manager?
Ouais, alors je vais commencer déjà par les 3 aspects avec lesquels j'ai interagi avec la data. Je pense que le premier, il y a vraiment un côté qui est construire des produits qui se basent sur de la data, de la data science, des bases de données, de l'intelligence artificielle parfois. Donc en fait, ça va nous aider à générer plus d'efficacité pour les employés, ça va nous aider à accélérer certaines tâches qui peuvent être fastidieuses, ça va nous aider à avoir des time to market plus importants, plus rapides sur des produits cosmétiques. Ça, c'est le premier aspect. Donc construire des produits qui sont un peu spécifiques, quoi, qui ressemblent pas forcément aux autres produits qu'on peut avoir sur le marché quand justement ça va être des applications même un peu plus simples, quoi. Donc premier aspect, je dirais des produits data, des produits IA. Le deuxième aspect, c'est que dans notre quotidien de tous les jours, en tant que product manager, moi, je suis obligé d'utiliser beaucoup la donnée parce que c'est une source d'information hyper précieuse sur le comportement de mes utilisateurs. Et ça me permet, en fait, derrière, d'avoir des insights précieux pour faire évoluer mes applications d'une manière pour les rendre un peu plus efficaces et pour les rendre plus... Pour faire en sorte qu'elles soient plus utiles pour mes utilisateurs. Donc, par exemple, ça va être un truc comme Google Analytics qu'on va brancher sur nos applications, sur nos produits, et donc ça va nous ressortir des données d'usage et ça va nous donner des infos sur comment les utilisateurs l'utilisent. Donc ça, c'est le deuxième point, la data, en fait, comme aide pour le product manager. Et le troisième aspect, qui est là un peu spécifique à chez L'Oréal et au travail, moi, que je fais aujourd'hui, ces temps-ci, c'est qu'on essaye aussi, du coup, de, dans une grosse boîte comme L'Oréal, dans un grand groupe, donc à peu près 100 000 personnes et, je pense, entre 2 et 5 000 personnes sur les sujets tech, en fait, on a beaucoup de gens qui vont bosser sur la data, sur la data science en particulier, et donc il y a un risque un peu de dispersion. Et donc, un des enjeux qu'on a aujourd'hui aussi, c'est de créer des communautés sur ce sujet, sur le sujet data science, pour faire que les gens échangent, qu'il y ait la transversalité et qu'on réinvente pas la roue, en fait, parce que quand tu as une boîte qui est très très grosse avec plusieurs localisations géographiques, évidemment, dans tout le monde, potentiellement quelqu'un va faire un truc aux États-Unis, puis en fait derrière quelqu'un doit le faire en Chine 6 mois après. Donc voilà, on a aussi cet enjeu-là, c'est le troisième, du coup, de, on va dire, fédérer, créer une sorte de culture commune de data.
Briser les silos peut-être aussi.
Et ouais, tout à fait, aussi, ça fait partie de ça également.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de décisions business, on va dire, ou stratégiques que vous auriez pris grâce à la data?
Alors, ça va être difficile d'identifier une décision business précise, mais il y a deux aspects, je pense, deux champs particuliers sur lesquels on va beaucoup utiliser la donnée. Le premier, je pense, ça va être tout ce qui va être sur la stratégie média, la stratégie de promotion, la stratégie marketing. On va beaucoup utiliser la data pour essayer de réfléchir à où investir en termes de dépenses marketing. Est-ce qu'on va investir dans des médias traditionnels comme la télé, les journaux? Est-ce qu'on va investir dans des médias un peu plus modernes, un peu plus nouveaux comme des campagnes d'influenceurs sur Instagram, sur TikTok? Donc là, ça va être un des premiers aspects sur lequel on va utiliser la data avec des modèles parfois un peu complexes quoi, de recherche opérationnelle. Et donc, ça va nous aider à être plus efficaces dans les dépenses qu'on fait. Voilà, L'Oréal, c'est une entreprise qui est connue pour beaucoup dépenser dans tout ce qui est marketing. Et donc, du coup, on essaie de le faire intelligemment. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça va aussi être sur les sujets marketing, mais du coup, un peu plus en amont, sur la recherche utilisateur, la recherche consommateur, essayer justement de mieux comprendre les comportements de nos consommateurs, les grandes tendances qui se développent. Et donc, on essaye aussi d'utiliser la data, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut récupérer comme données sur les réseaux sociaux pour identifier les grosses tendances et du coup, les sujets sur lesquels investir.
Alors, est-ce que vous faites du machine learning chez L'Oréal? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'exemples concrets?
Ouais, avec plaisir. Du coup, on en fait. Alors, je dirais, pour vous citer deux applis qui sont assez emblématiques de ce qu'on peut faire. Donc, c'est des applications pour le métier. La première, donc, c'était sur le sujet des trends, l'identification des tendances. Donc, c'est un gros enjeu pour toutes les marques, à peu près toutes les marques dans le monde, mais c'est un gros enjeu d'identifier les nouvelles tendances parce qu'en fait, on a envie, en tant que marque qui offre des produits de consommation pour les consommateurs lambda, d'être vraiment en avance sur ces tendances-là et de pouvoir adapter vraiment à l'humeur du marché, aux grands sujets sociétaux. Donc typiquement, Black Lives Matter, par exemple, c'est un sujet vraiment important que du coup, les différentes marques dans le monde, les différentes entreprises ont dû adresser d'une manière ou d'une autre dans leur communication ou dans leur stratégie de produit. Et donc, typiquement, le prochain de Black Lives Matter, on veut le repérer et puis du coup, pouvoir être proactif là-dessus, sur le sujet. Il y a un côté évidemment opportuniste, parce que c'est aussi une manière pour nous de vendre plus de produits, mais c'est aussi une manière de montrer nos valeurs et d'être dans le bon timing pour pouvoir parler de ce qui est important pour nous. Donc ça peut être Black Lives Matter, ça peut être MeToo, ça peut être autre chose. Mais donc ça, c'est le premier sujet, donc l'identification des tendances. Et donc nous, on a des outils du coup pour identifier ça en amont. Alors ça se passe comment en général? C'est que on va scraper, nous-mêmes, on va récupérer de la donnée sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça va pouvoir être des posts influenceurs, ça va pouvoir être plus généralement un certain nombre de comptes de personnes qu'on va suivre et dont on va pouvoir suivre un peu l'engagement et l'influence. Et du coup, on a une grosse base de données du coup, avec plein d'informations, plein de textes, plein d'articles publiés. Et en fait, on va essayer de faire un tri là-dedans pour sortir peut-être des mots qui vont particulièrement sembler importants parce que leur fréquence d'occurrence est importante, quoi. Et donc ça va nous permettre de dire, c'est intéressant, le mot clean beauty, le mot green beauty, le mot no cruelty, enfin cruelty free, il ressort beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un sujet important. Typiquement, cruelty free, ça veut dire ça renvoie au fait que les produits cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux, ou en tout cas que ça n'a pas été fait avec de la cruauté envers les animaux. Ça, c'est évidemment un sujet qui est important pour nous. Bon, ça fait longtemps que ça l'est, mais du coup, ça nous permet de le confirmer, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Donc, vraiment, identification des tendances. Donc, ça, c'est des applications, c'est des applications de machine learning qui nous permettent de faire ça, au sens où, du coup, l'idée, c'est toujours de projeter une tendance de se dire, tel mot aujourd'hui, il est à tel niveau, et j'anticipe que dans le futur, il sera à tel niveau plus important, et donc ça vaut le coup d'investir dessus, quoi.
Donc là, pour bien qu'on comprenne, vous récupérez la data avec du scrapping ou en récupérant les flux réseaux sociaux. Et ensuite, c'est dans l'analyse que vous utilisez des outils de machine learning, de natural language processing, pour comprendre tout ce texte, éventuellement, l'image, je ne sais pas si vous travaillez sur l'image aussi.
L'image sera peut-être sur le deuxième use case, mais oui, effectivement. Donc, là, il y a un côté NLP, il y a un côté aussi série temporelle, puisqu'en fait, l'idée, ça va être de dire, je vais modéliser le comportement temporel d'une tendance et je vais identifier...
Prédiction. Vous faites utiliser des outils de machine learning pour prédire les prochains data points, entre guillemets.
Ouais. Exactement. Ok. Et du coup, alors, un deuxième use case qui est plus orienté, lui, vraiment NLP, pour le coup, traitement du langage, c'est en fait un outil qui va nous permettre d'analyser les commentaires sur différents plateformes e-commerce, donc comme Amazon, typiquement. Là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, en fait, laissés par des utilisateurs, des consommateurs. Sur des produits cosmétiques. Et en fait, on va essayer de les analyser pour voir ce qui ressort en termes d'insight sur le produit cosmétique. Et ça, c'est très utile en fait, pour nos équipes recherche qui conçoivent ces produits parce que ça leur permet de voir, d'avoir vraiment une boucle extrêmement forte avec l'utilisateur final pour savoir comment l'outil a été perçu. Et là, pour le coup, ça va être la partie machine learning, elle va porter sur du NLP puisque l'idée, ça va être de dire, voilà, j'ai un certain nombre de commentaires que j'ai tagués comme étant en lien avec tel sujet, avec tel degré de positivité de négativité, et du coup sur les nouveaux que je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir dire celui-là il est très positif ou celui-là il est un peu moins grâce du coup au stock de données historiques sur lequel je me suis entraîné.
C'est du passage à l'échelle en fait, parce que finalement par rapport à une dizaine de commentaires qu'on pourrait lire, là on se retrouve avec des dizaines de milliers peut-être de reviews sur internet, et le NLP vous permet de synthétiser, d'extraire un avis synthétique de toutes ces personnes.
Exactement.
Avec peut-être des rapports un peu plus compliqués qu'une simple phrase, mais c'est quelque chose qui ne serait pas accessible sans machine learning.
Ouais, exactement, parce que le volume est trop important et du coup on n'aurait pas ce côté prédictif qu'on peut inclure là maintenant. Et il y a aussi un aspect intéressant, mais du coup on en verra sûrement, c'est qu'aussi en fait le fait d'essayer de créer ce use case là, ça nous a forcé à nous poser des questions d'un point de vue métier qui étaient assez pertinentes. Enfin, typiquement là, ça nous a poussé à nous poser comme question quels sont les attributs potentiellement sur lesquels peuvent parler les consommateurs. Quand on parle d'un mascara, par exemple, c'est quoi les différents attributs dont peuvent parler les consommateurs? Est-ce que si, enfin voilà, typiquement, voilà, un mascara, on va attendre qu'il ne fasse pas d'espèces de petits pâtés au niveau des cils. Mais du coup, comment on définit ce terme pâté? Et du coup, en fait, il y a vraiment eu un travail aussi métier de définition, de clarification de ce qu'on attendait comme attribut, qui pour le coup a pas grand-chose à voir au début avec la data, mais qui est hyper utile en fait, à la fois d'un point de vue métier, à la fois d'un point de vue data.
Alors, quel est le plus gros avantage compétitif que vous avez à L'Oréal en étant une société qui s'occupe de la data, qui l'analyse, qui la consomme?
En fait, du coup, il y a toujours deux aspects, à mon avis, dans ces sujets data. Je pense qu'il y a vraiment un sujet, d'abord, rationalisation, un peu processisation quelque part. Et là, c'est un peu ce qu'on a mis en place avec, du coup, la migration sur GCP, de l'infra. Et puis, du coup, on bosse beaucoup, nous, sur le côté data gouvernance, en fait, essayer de rendre ça intelligent, de faire que le métier, les fonctions business puissent avoir des idées du use case qu'elles puissent construire avec les populations IT et tech, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, je dirais. C'est la première chose qu'on a fait. Et la deuxième, du coup, c'est vraiment ensuite avoir une sorte de compétence technique pour construire ces use cases-là de machine learning qui sont difficiles d'un point de vue technique. Donc là, c'est un peu les deux trucs qu'on a. Je pense qu'il faut l'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire que si jamais tu as la partie compétence machine learning sans avoir la partie gouvernance, rationalisation de l'infra, en fait, t'as des usines à POC, en fait, qui vont jamais aller en production. Et puis, si jamais t'as uniquement une partie rationalisation de l'infra gouvernance, mais sans compétence machine learning, en fait, tu vas rester sur des trucs alors qui sont très puissants comme la BI, par exemple, mais tu vas pas aller plus loin sur du prédictif et parfois, ça va être nécessaire, quoi. Donc, nous, l'avantage direct que ça nous donne, c'est qu'en fait, d'avoir fait ces deux trucs-là assez tôt, de manière assez précoce, alors quand je rapporte à notre industrie de la beauté, ça nous permet d'avoir des premiers un avantage important parce que on a commencé à essuyer des plâtres un peu plus tôt que les autres, et du coup, ça nous a permis de gagner en maturité un peu plus vite, et donc, par exemple, de commencer à capitaliser sur nos sortes de data, les rationaliser, les cleaner, pour qu'ensuite, ça soit de meilleure qualité, et en fait, ça va continuer à s'améliorer au fur et à mesure, à la fois en qualité et en quantité, et donc ça nous permet de prendre un peu de l'avance, en fait, sur les autres.
Vous êtes finalement une fonction support au sein de L'Oréal et vous donnez le meilleur support à ceux qui conçoivent les produits, ceux qui designent les stratégies marketing.
Ouais, alors du coup, justement, nous, on essaie un peu de casser le terme fonction support parce que, en fait, l'IT un peu à l'ancienne, on va dire, c'était un peu ça. C'est-à-dire, en gros, je vais voir l'informatique quand j'ai besoin d'un nouveau PC ou quand mon PC ne marche plus.
Ouais.
Et ça, du coup, c'est... en fait, il y a une relation client-fournisseur qui n'est pas hyper saine. Enfin, en tout cas, qui n'est pas forcément hyper efficace. Nous, on essaie vraiment d'être dans une relation un peu plus partenariale où, en fait, le business va pouvoir nous parler d'un use case et on va le travailler ensemble pour le sortir, pour le développer. Et où aussi, nous, qui sommes plutôt techniques, on va pouvoir leur proposer des idées. Et en fait, ensemble, on va construire les choses. Donc, on est plutôt dans une relation partenariale. Par contre, je pense que ce qui est important, et ça revient à ce que tu dis, c'est qu'on est là au service du business. On n'est pas là pour faire de l'IT pour de l'IT. À la fin, on veut que ça serve à L'Oréal. On veut que ça ait de l'impact pour la boîte en général.
Un data scientist, un data analyst, tu attends quoi de lui quand tu le recrutes?
Alors, moi, on va dire c'est assez classique, mais soft skills, hard skills, pour différencier. Je vais commencer du coup par les hard skills parce que c'est plus facile. Du coup, la partie hard skills, en fait, ce qu'on va quand même attendre de lui, c'est une bonne maîtrise des basiques en termes de cleaning de données, gestion de données et puis premières analyses statistiques. Voilà, ça va être à la fois pour le data analyst, à la fois pour le data scientist, pour en fait être capable de faire des petites manips rapides sur des données et récupérer des premiers insights. Ensuite, ce qu'on va attendre peut-être un peu plus spécifiquement d'un data scientist, pour moi, c'est des vraies compétences de software engineer. C'est-à-dire que en fait, on est quand même en train de construire des applications qui terminent en production à un moment. Et donc, on ne peut pas se permettre de juste faire, en gros, si je caricature, des Jupyter Notebook qui vont tourner en local sur le PC du Data Scientist. Donc, moi, j'attends aussi, je pense, d'avoir un peu cette sensibilisation sur le fait qu'à la fin, ça termine en prod et que ça doit être des applications bien faites quoi, et bien conçues. C'est aussi en lien avec le bouton Data Engine, pour le coup, qui fait partie aussi de cet écosystème. Donc, ça, c'est je pense, le premier point sur la partie hard skills. Sur la partie soft skills, je dirais que en fait, on a besoin aussi d'avoir des data scientists qui soient des bons communicants, qui sachent expliquer leur travail. Un des gros écueils, je pense, du machine learning aujourd'hui, c'est que en fait, c'est mal compris, notamment par les chefs, les sponsors, qui imaginent que c'est une sorte de baguette magique. Et en fait, on a besoin de data scientists qui savent expliquer en quoi c'est pas le cas, en quoi en fait, c'est très puissant comme approche, mais en fait, ça vient quand même au bout d'un travail qui est poussé, qui est compliqué. Donc, on a besoin de cette communication.
Tu viens de parler de sponsor, justement, pour quelqu'un qui n'est pas product manager, c'est intéressant d'avoir un peu une explication de ce qui va derrière. Les parties prenantes sur un projet, dans une boîte comme L'Oréal, qui sait en gros et quels sont les interlocuteurs du data scientist dans ce genre de situation ?
Alors, en général, je pense que sponsor, de manière générale, pour le définir, c'est quelqu'un qui, globalement, a un peu droit de vie et de mort sur ton projet, pour le dire très simplement. Et du coup, sur un peu tout produit, toute initiative, en fait, tu as souvent quelqu'un qui va représenter le monde de l'informatique, de la tech, quoi. Donc, ça va être, en général, plutôt mes chefs, les chefs chez moi, quoi. Et puis, en général, tu as un chef côté métier, du coup, qui est le chef des interlocuteurs métiers qu'on va avoir, quoi. Et donc, du coup... pour moi, tout l'enjeu en fait du data scientist un peu maintenant quoi, le data scientist du futur, c'est de pas purement être dans la relation de son stakeholder, de son sponsor côté tech, mais aussi de savoir en fait en parler côté business quoi. Donc du coup, je dirais qu'historiquement en fait, on a plutôt eu tendance, enfin parfois on a le mauvais réflexe en fait de dire que les data scientists doivent un peu bosser en back office et en fait bon du coup plutôt être dans un reporting au niveau tech, mais sans aller plus loin. Et je pense que du coup aujourd'hui justement faut aller plus loin, faut vraiment mettre le data scientist ou le développeur, l'acteur technique, aussi au centre des débats et le faire discuter avec le business parce que c'est vertueux pour tout le monde.
Oui, et lui a besoin de comprendre les enjeux business pour bien bosser.
Exactement.
Il y a quelque chose d'assez récent qui s'appelle le règlement général sur la protection des données, RGPD, une contrainte de travail qui protège les données personnelles. Des gros acteurs comme L'Oréal sont sous le feu des projecteurs. Concrètement, vous, au quotidien, qu'est-ce que ça change ? Comment est-ce que vous gérez ça ?
Du coup, je dirais qu'il y a vraiment il y a deux aspects là-dedans. Je dirais qu'il y a premier aspect, ça va être quand nous, on gère nous-mêmes la donnée. Donc là, effectivement, on est obligé de faire bien attention à ces aspects-là. C'est un truc auquel on faisait déjà attention un peu avant, sur les enjeux de data privacy, confidentialité de la donnée. Mais là, pour le coup, c'est matérialisé encore plus fort d'un point de vue réglementaire, donc on est encore plus vigilant. Typiquement, L'Oréal, un sujet qu'on a depuis toujours, c'est que L'Oréal, c'est une sorte de marque chapeau qui derrière englobe un univers de différentes marques quoi. Donc je sais pas, par exemple Lancôme ou Garnier, c'est des marques qui appartiennent à L'Oréal mais qui en fait ont leur univers propre. Et en fait quand les gens achètent Lancôme, potentiellement ils ont pas conscience que ils sont pas forcément conscients qu'en fait à la fin ils achètent L'Oréal quoi. Enfin en tout cas que Lancôme appartient à la maison mère. Donc en fait c'est des enjeux qu'on a depuis très longtemps nous en fait, de se dire dans quelle mesure en fait Lancôme peut donner ses données à L'Oréal pour que L'Oréal fasse de la pub pour d'autres marques L'Oréal. C'est un sujet qu'on a depuis longtemps, quoi. Et du coup, on y fait très attention, on y est très vigilant parce que c'est des aspects éthiques sur lesquels on veut être proactif, quoi. Ça, c'est le premier truc, je dirais, sur vraiment la donnée quand on la gère nous. Et puis du coup, il y a aussi un second aspect, c'est sur quand on achète de la donnée, quand on est... on est, je pense, responsable de traitement selon RGPD, mais en fait, c'est pas nous qui, à la fin, générons la donnée. Là, pareil, on est aussi obligé d'être beaucoup plus vigilant quand on va récupérer de la data d'un tiers provider. Dans ce cas-là, on va devoir faire attention à ce que la boîte soit aussi bien clean sur ces aspects-là. Et par exemple, c'est un sujet qu'on peut avoir quand on bosse avec un data provider américain. Lui, potentiellement, n'a pas les mêmes contraintes en termes de confidentialité de données que nous. Et donc là, on doit s'adapter et potentiellement faire des choix difficiles en n'allant pas bosser avec lui parce qu'en fait, on a peur qu'il ne respecte pas des aspects du RGPD.
D'accord, donc vous êtes obligé de faire une sorte d'audit de vos fournisseurs sur ce point-là avant de bosser avec eux.
Ouais, bien sûr.
Et l'autre contrainte que ça vous donne, c'est que finalement le RGPD vous oblige à informer les utilisateurs de ce qui va être fait avec leurs données. Et comme vous êtes un grand groupe qui possède plein de marques, il y a des doutes finalement sur est-ce que vous avez le droit de transférer les données d'usage d'une marque à l'usage d'une autre marque. C'est ça?
Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est les sujets sur lesquels on est sensibilisé depuis longtemps et auxquels on, en fait, c'est plutôt des sujets auxquels on doit faire gaffe par construction parce qu'en fait, on est du coup, c'est une grosse structure avec justement ce côté des marques chapeaux et puis des marques à l'intérieur, des petites marques à l'intérieur, quoi. Donc, ouais, c'est un truc sur lequel on est sensibilisé depuis longtemps, mais voilà, le RGPD rend ça encore plus concret, quoi. Même si en fait, c'est déjà des trucs auxquels on doit faire face au jour le jour, quoi, depuis longtemps.
C'est quoi les limites de la data dans ton quotidien ?
Je dirais il y a deux écueils en fait. On a déjà un peu parlé. Donc le premier, c'est vraiment un côté gestion des attentes. Et le second, je pense, c'est un côté difficulté à voir la data comme vraiment un aspect software engineering, comme quelque chose qui est du software engineering. Donc si je creuse en fait. Donc le premier aspect, c'est vraiment la gestion des attentes, ce qu'on appelle vraiment le expectation gap, expectation handling. Ça va être de bien faire comprendre que c'est pas une baguette magique l'IA, que en fait pour faire de déjà l'IA en tant que telle, c'est pas un bon terme, hein. Il faudrait parler de machine learning, d'algorithme prédictif. Mais en fait, pour arriver à faire des algorithmes prédictifs, déjà il faut avoir des bases de données qui soient bien faites, qui soient bien clean, bien harmonisées, bien rationalisées. Et puis en fait, on va devoir maîtriser le problème métier derrière, et une fois qu'on maîtrise le problème métier derrière, peut-être qu'ensuite on va pouvoir envisager de l'instrumenter par des algos qui vont modéliser ça, des algos prédictifs, quoi. Et donc le premier sujet, c'est vraiment ce côté baguette magique, parce qu'en fait parfois ça nous pousse à on peut avoir des demandes qui nous demandent d'aller creuser tel use case en disant voilà, il y a probablement de l'IA à faire derrière, alors qu'en fait potentiellement non, et en tout cas même s'il y a de l'IA derrière qui peut s'appliquer, on ne peut pas le savoir au début. Il va falloir qu'on creuse d'abord. Et donc, ce n'est pas un truc qu'on peut anticiper, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, je dirais. Il y a un côté vraiment gestion des attentes, gestion de la déception des sponsors sur le sujet, quoi.
Dans une grosse boîte comme L'Oréal, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des allers-retours? C'est-à-dire que vous voulez développer un produit, vous vous rendez compte qu'un champ est manquant, qu'il faut collecter un type de données que vous n'avez pas et arriver à faire remonter jusqu'à... au département qui est capable de la collecter pour faire cette évolution et en définitive créer l'application que vous vouliez créer.
Ouais, en tout cas, c'est vraiment un truc qu'on met en place, qu'on essaie de faire le plus possible. Souvent, c'est pas forcément que ça se matérialise avec un champ manquant. Souvent, le problème, ça va être du coup, on se rend compte que la quantité de données disponible n'est pas suffisante ou qu'elle n'est pas en qualité suffisante. Et donc, du coup, ça va nous permettre, en fait, on va essayer de le repérer le plus vite possible avec des travaux un peu exploratoires. Et donc, en fait, ça va nous permettre direct de baisser un peu les attentes vis-à-vis du succès du use case. Et donc, de dire, en fait, dans ces cas-là, voilà, si on commence à bosser sur un cas d'usage, on voit que la donnée n'est pas en quantité ou en qualité suffisante. Donc, en fait, là, on a deux solutions. C'est soit, en fait, on dit, on arrête le use case. Et ça, en fait, plus on s'en rend vite compte, mieux c'est. Ou souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on dit, on va essayer de mettre en qualité un peu plus la donnée, de renforcer, d'en collecter un peu plus pour avoir une quantité un peu plus importante. Et donc, on va le faire de manière un peu itérative, incrémentale, en progressant petit à petit. Et puis, du coup, on va avoir des petits points de passage réguliers, donc de manière très agile, incrémentale, pour dire est-ce qu'on continue parce que c'est prometteur ou est-ce que, du coup, on se dit que ça suffit pour le coup, quoi. Donc, on essaie de le faire. C'est pas évident, en fait, sur les sujets data, parce que ça s'y prête. C'est un tout petit peu plus subtil que dans les approches IT classiques, mais c'est évidemment quelque chose qu'on essaie de faire, tout à fait.
Ok, alors est-ce que tu peux décrire le plus simplement possible l'architecture, on va dire, data avec laquelle tu aimes travailler, sont les bonnes pratiques?
Ouais, tout à fait, avec plaisir. Alors du coup, un truc qui est assez récent chez nous, chez L'Oréal, enfin qui a 2-3 ans, quoi. Mais bon, pour une boîte qui a une centaine d'années, c'est assez récent, c'est qu'en fait... Il y a toujours un débat un peu entre à quel point je centralise la gouvernance et à quel point je la décentralise. Est-ce que du coup je fais passer toutes les décisions par, on va dire, un organe un peu unique, ou est-ce qu'en fait je laisse un peu les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc il y a toujours une sorte d'équilibre à trouver qui est compliqué, hein. Et donc du coup, une chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de centraliser un peu plus des choses sur lesquelles c'était pertinent de centraliser, sur lesquelles on avait des économies d'échelle. Donc, par exemple, tout ce qui va être stockage et gestion de l'infra, on a tout migré, globalement quasiment tout migré sur GCP, sur Google Cloud, depuis un ou deux ans. Enfin, en tout cas, on est vraiment en train de terminer tout ça aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier aspect. Hein. C'est que notre stack technique au niveau infra, c'est du GCP. Et donc, bah, avec tous les avantages que le cloud peut donner en termes de voilà, serverless, ça va beaucoup plus vite pour créer un environnement. Et donc, ça, c'est le premier truc, je dirais, au niveau technique.
Tout se branche, les services se branchent les uns aux autres facilement. Vous n'avez pas d'intégration difficile à faire quand vous utilisez plusieurs services de Google, quoi.
Alors, ouais, on en a parfois sur des applis, parce que du coup, on a des applis genre SAP, trucs comme ça, Salesforce, et là, du coup, qui ne sont pas forcément natifs GCP. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire, moi, sur le type d'application sur lequel je bosse, qui sont globalement des applications sur lesquelles on va développer globalement à peu près tout in-house, à la maison, du coup, pour le coup, ça se passe bien, quoi. Donc en gros, on a une couche donc GCP pour tout ce qui est stockage infra, et on utilise des services managés. Donc typiquement, tout ce qui va être donc pipeline de CI/CD, on utilise pas mal Vertex AI, bon voilà, qui est en gros un peu le truc, le service qui nous permet du coup de faire du CI/CD sur des applications machine learning et des aspects MLOps également, quoi. Ensuite, en général, on a du Python assez classiquement pour tout ce qui va être gestion de la donnée back-end, et puis derrière du front-end en JS en général, on fait du ça doit être du React en général qu'on prend. Donc c'est ça globalement la stack.
Ces choix, pourquoi vous les avez faits? Est-ce que tu connais les tenants et aboutissants de ces choix, les avantages, inconvénients?
Alors, je pense pour Python React, c'était globalement, c'est partie des technos qui sont les plus utilisés sur le marché. Une petite précision, c'est quand même que souvent on essaie d'utiliser aussi Streamlit au début du projet, au début de la construction du produit pour prototyper un peu plus vite.
Streamlit, outil qui est simplifié à l'extrême pour créer une application web.
Exactement, parce que ça nous permet facilement du coup de tester très très vite le produit avec l'utilisateur, et ça permet d'avoir du feedback et donc d'être un peu plus sécurisé du fait qu'on ait vu la valeur, quoi. Mais on va dire donc Python, Streamlit, React, je pense que c'est des choses qui sont assez connues et plutôt état de l'art, on va dire, dans ce qui se fait sur le marché. GCP, pour le coup, pourquoi on a pris GCP? Alors je saurais pas vous dire, hein, j'étais pas dans le schéma décisionnel, j'étais pas dans l'organe de décision. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avantage quand même à avoir GCP qui n'est pas leader, en fait, pour le coup, sur tout ce qui est cloud provider, puisqu'en fait, bon, AWS et Azure sont quand même devant. Un des avantages d'avoir GCP, c'est qu'on a des relations qui sont assez bonnes, en fait, avec eux. On arrive à discuter, et puis essayer d'influencer la roadmap comme des gros utilisateurs pour eux. Parce qu'en fait, évidemment, bon, si on regarde les coûts, je pense que voilà, une grosse boîte comme L'Oréal, on doit dépenser beaucoup plus chez Microsoft, quoi, en termes de juste licence Office. Mais par contre, pour GCP, c'est important d'avoir un acteur, du coup, de la beauté, qui soit chez eux, hébergé chez eux. Et c'est notamment un truc qu'ils mettent pas mal en avant, GCP, dans leur communication institutionnelle, le fait qu'on bosse avec eux, que du coup, il y a une boîte de la beauty tech qui bosse avec eux.
Oui, le fait d'être un gros acteur vous permet aussi de leur demander peut-être des développements, des corrections, des choses comme ça sur leurs produits.
Oui, exactement. Ça fait partie des choses qu'on peut faire parce que du coup, on reste un acteur un peu plus important pour eux que la normale, quoi.
Et vous ne pourriez pas vous l'offrir si vous étiez chez le plus gros.
Exactement. Chez AWS, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Et il y a probablement aussi la culture Google derrière, je pense, qui aide là-dessus, qui est probablement plus user-centric que côté AWS ou Azure. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est plutôt vertueux pour nous et je pense qu'on est assez content, quoi, de ça.
Votre équipe, pour avoir une idée un peu de la composition, c'est combien de data scientists, analystes, engineers, product managers?
Alors du coup, je vais parler donc. Donc ouais, d'abord, je vais juste devoir mettre un tout petit peu de contexte sur comment ça fonctionne, hein, la tech chez L'Oréal. Donc en gros, on est une boîte quand même qui est très décentralisée dans l'approche, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas un gros département IT. Il y a un département IT un peu qu'on appelle IT Global, IT Group, qui a une sorte de vision un peu transversale, périphérique, qui va se charger de fonctions un peu transversales, comme par exemple le stockage et l'infra, quoi. Mais sinon, en fait, il y a plein de petits îlots IT et tech à différents endroits de l'organisation. Et donc, du coup, là, je vais parler de mon îlot tech, donc, qui s'appelle Tech Accelerator, hein, qui est au sein de l'IT Group et donc qui développe des applications métiers pour les employés de L'Oréal, quoi. Mais donc, pour parler de mon entité à moi, on est à peu près, je dirais, une vingtaine de personnes avec, du coup, à la fois des profils data science et data science data ing, des profils UX designer, product designer, des profils product manager comme moi et des profils plutôt orientés tech lead, architecte, software developer, lead developer. Donc, on est structuré à peu près comme ça. Et après, en fait, sur une initiative, un produit donné. Donc, en général, on a un product manager, un product designer, un data scientist et en général, donc là le data scientist joue un peu un rôle de lead et 2-3 data scientists ou data ing ou développeurs dans l'équipe produit, on va dire.
D'accord. Et combien de software engineers dans une équipe comme ça ?
Et en général, je dirais 2 ou 3 pareil à peu près. Sachant que souvent nous, alors on ne peut pas tout internaliser, donc souvent en fait, c'est les gens internes de l'équipe, du coup le côté tech accélérateur en fait, jouent un peu le rôle de lead et du coup on a des prestats ensuite côté software engineer et côté data scientist.
C'est quoi votre plus grande déconvenue dans ton équipe à L'Oréal avec la data ? Qu'est-ce que, éventuellement, tu regrettes de ne pas avoir fait autrement ?
Je dirais, un des sujets, enfin, je ne sais pas si c'est une déconvenue, mais en tout cas, un des sujets sur lesquels on bosse beaucoup, nous, aujourd'hui, c'est tout ce qui va être adoption et s'assurer que les utilisateurs perçoivent bien la valeur ajoutée des applications qu'on construit et les utilisent correctement et dans le temps, quoi. Donc, il y a une forme de rétention aussi de ces applications. En fait, c'est lié aussi du coup au sujet de l'IA. C'est comme je disais, en fait, il y a souvent une perception de l'IA et du machine learning qui est vue comme une baguette magique. Donc en fait, on a envie de se précipiter vers cette solution-là, ce qui fait que parfois ça nous aveugle et en fait, on prend pas le temps de se poser la question de est-ce qu'il y a bien un problème derrière qu'on va vouloir résoudre et est-ce que du coup ce problème pour le résoudre, il faut bien utiliser du machine learning. Et donc en fait, parfois en fait, on va trop vite à la solution parce que aussi il y a du sponsoring qui nous pousse à utiliser ce genre de technologie, mais ce qui fait qu'en fait, on n'a pas bien caractérisé le problème et on n'a pas bien défini comment bien cadrer la solution pour qu'elle y réponde le plus efficacement possible, ce qui fait qu'en fait à la fin l'utilisateur, il peut être un peu déçu ou en tout cas, on a du mal à l'engager dans le temps. Et donc c'est un de nos gros sujets aujourd'hui sur lequel on essaie de beaucoup bosser. En plus, on a un élément de complexité supplémentaire qui fait qu'on est dans un contexte business to employé qui est un peu qui est compliqué parce que du coup, voilà, c'est toujours des populations qui sont dites captives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément le choix d'utiliser. Mais du coup, c'est d'autant plus dur en fait de susciter leur adhésion qu'en fait, elles n'ont pas forcément le choix. Donc en gros, c'est pas évident, paradoxalement.
Plus exigeant comme population.
Ouais, tout à fait, exactement.
Et tu as un exemple à nous donner de situation dans laquelle justement l'IA était attendue comme une baguette magique et il a fallu manager les expectations?
Je dirais de manière générale, hein, en fait, j'ai pas peut-être un projet. Ça va être compliqué de donner un projet en exemple particulier, mais en fait, de manière générale, je dirais que ça arrive souvent en fait qu'il y ait des grosses attentes vis-à-vis de ça, côté utilisateur et puis côté sponsor, et qu'en fait, côté utilisateur à la fin, il y a une forme de déceptivité parce que, on attend beaucoup trop de l'algorithme machine learning et puis en fait, quoi qu'il arrive, ça reste quand même un produit informatique qui grossit dans le temps, qui progresse dans le temps. Donc en fait, du coup, l'utilisateur va être un peu déçu et du coup, ça va créer de la suspicion vis-à-vis du produit et du machine learning, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement exigeant et en fait, il va attendre de lui qu'il soit complètement omniscient, ce qui n'est pas le but, quoi. Enfin voilà, souvent aussi, l'autre manière dont ça va se matérialiser, c'est qu'en fait, l'utilisateur va... En gros, être beaucoup trop va trop suivre en fait ce que veut dire l'algorithme, en fait les recommandations de l'algorithme, va avoir du mal à faire preuve de recul et d'esprit critique, et donc du coup, il va le suivre de manière complètement automatique, ce qui est pas bien non plus parce qu'en fait, à la fin, on veut garder quand même une analyse humaine dans la boucle.
Oui, c'est des outils qui sont faillibles et qui sont utilisés comme vérité. Comment tu gères l'humain dans ce genre de situation avec ton expérience? Qu'est-ce que tu as adapté? Comment est-ce que tu gères ces deux facteurs?
Je dirais le meilleur conseil moi que j'ai là-dessus, c'est que il faut réussir à anticiper ces éléments le plus possible. Alors je pense que c'est vraiment le béaba en termes de conception de produits informatiques, mais il faut inclure l'utilisateur dans la boucle dès le début. C'est-à-dire que il faut pas concevoir un produit, il faut d'abord se demander pour qui je le construis, quoi. Et donc ça va forcément nous amener à aller voir les utilisateurs, leur poser des questions, les comprendre et en fait comprendre leurs problèmes et ensuite construire avec eux une solution. Ça va nous permettre de les mettre dans la boucle dès le début. Et en fait, ça va faire de la conduite du changement, ça va justement permettre de commencer à les convaincre du fait que l'application qu'on va essayer de construire, elle va être pertinente. Donc en fait, les inclure dans la boucle dès le début, même avant d'écrire la première ligne de code.
Par opposition à écouter ce que dit le sponsor, demander un cahier des charges au sponsor et l'exécuter finalement.
Ouais, exactement. Exactement, et c'est même pas forcément un sponsor hyper, hyper élevé, ça va être le réflexe qu'on a toujours en fait quand on construit des applications, on a toujours l'impression de mieux comprendre l'utilisateur, de bien comprendre l'utilisateur. Et en fait, on se rend compte toujours empiriquement que c'est pas le cas, que dès qu'on va discuter, avec lui, on va apprendre plein de choses. Et donc, pour éviter ça, et c'est un cercle vertueux, en fait, faut l'inclure dans la boucle très très tôt pour être sûr de bien être bien visé en fait ensuite en termes d'application.
Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data?
Un truc qui me frappe, c'est que ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est qu'en fait souvent on a tendance, enfin je trouve ça assez ironique, en fait on a tendance à un peu sous-estimer tout ce qui va être business intelligence et data analyse un peu basique. Enfin je dis basique parce qu'en fait on a l'impression que c'est moins poussé que du machine learning. Et donc on va un peu sous-estimer ces fonctions-là. Et puis il y a aussi un côté où socialement en fait on a l'impression qu'en fait un data scientist c'est une superstar et puis un data analyst c'est un boulot un peu moins technique, un peu moins poussé quoi. Je trouve ça assez ironique parce qu'en fait pour que la data science marche, que les data algorithms de machine learning marchent, il faut d'abord qu'on soit capable de faire de la bonne BI, de la bonne data analyse. Du coup, en sous-estimant, en sous-investissant sur ces fonctions BI, data analyse et aussi data ing, on se tire une balle dans le pied et on fait moins de la moins bonne data science à la fin.
Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui sort d'école en tant que data scientist, data analyst, data engineer, ce serait quoi?
Alors, moi, j'ai deux conseils à donner. Je vais m'en donner trois, du coup. Donc, le premier, c'est ne pas négliger la partie software engineering. Ça veut dire, en gros, Python, c'est le langage le plus courant pour faire de la data science, mais en fait, faire des applications web en Python, c'est pas un truc qui est hyper courant non plus dans l'industrie. Donc, faut pas hésiter à aller un peu plus loin, aller lire des bouquins qui vont un peu plus loin dans le software engineering, souvent sur l'orienté objet, du Java, des choses comme ça, quoi. Donc, faut pas négliger ça, à mon avis, parce qu'on oublie souvent, en fait, la partie statistique peut trop nous emmener, peut trop nous attirer. Il faut pas oublier qu'à la fin, ça reste encore une fois des applications qui tournent en production. Donc, attention à la software range. Deuxième aspect, je pense, c'est ne pas négliger la maîtrise du sujet métier à chaque fois. Donc, ça veut dire... En fait, pour moi, un data scientist, c'est aussi un data scientist qui bosse dans telle industrie. Donc, si on bosse dans l'industrie bancaire, faut maîtriser l'industrie bancaire. Et encore une fois, maîtriser le problème métier, ça va être une manière aussi hyper efficace de construire des applications qui fonctionnent bien. Donc, ne pas sous-estimer ça, même si ce n'est pas technique. C'est important de le faire. Et le troisième truc, c'est tout ce qui est soft skills, à mon avis. En gros, entre un data scientist qui est exceptionnel d'un point de vue technique, mais qui est très, très mauvais communicant, et un data scientist qui est... moyen d'un point de vue technique, qui est un très bon communicant, je préfère largement le deuxième parce qu'en fait, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple en fait d'expliquer ce qu'on fait avec la data derrière. Et souvent, en fait, la difficulté pour nous, c'est pas du coup, d'un point de vue technique, de gagner 3-4% de performance sur un algorithme, c'est de bien communiquer intelligemment sur ce à quoi sert l'algorithme. Voilà, c'est trois conseils du coup.
Pas besoin de construire des cathédrales. En revanche, il faut bien avoir cerné les enjeux, bien communiquer avec toute l'équipe pour que l'utilisateur soit bien servi, quoi.
Exactement. Ouais, pragmatisme, je pense, c'est ça le mot.
C'est quoi l'avenir pour L'Oréal dans la data? C'est quoi les prochains enjeux pour vous?
Et je dirais, il y a plusieurs phases en fait de maturité dans les sujets data. Je pense la première phase, c'est une forme un peu d'enthousiasme de découverte. Où en gros, on va tester un peu les trucs à droite, à gauche, on n'est pas très, très mature. Et du coup, là, cette phase, je pense qu'on l'a passée il y a quelques temps. La deuxième phase, à mon avis, c'est une phase où on est un peu plus mature et on commence à rationaliser un peu les choses, à essayer d'être plus organisé et plus industriel dans l'approche. Et du coup, ça, je dirais que c'est la phase de laquelle on est un peu en train de sortir. Et pour aller vers une troisième phase, qui est, à mon avis, une phase en fait où, on a bien compris la force de la data, du machine learning et puis également ses faiblesses, ses biais. Et en fait, on arrive à avoir une vision un peu plus, je dirais, macro, peut-être un peu holistique, en fait, de ce qu'on doit faire avec la data et où, en gros, le machine learning, c'est un outil parmi d'autres pour utiliser des bases de données sur lesquelles nos applications informatiques stockent des informations, quoi. Et donc, du coup, je dirais, c'est cette troisième phase, justement, qu'on commence à toucher un petit peu à gratter du doigt, mais qui, en fait, une vision un peu plus neutre, un peu plus dédramatisée de l'IA et du machine learning, où en fait c'est un outil parmi d'autres, mais c'est pas la silver bullet, l'outil qui va tout résoudre facilement, automatiquement et sans effort.
T'as pas mal bossé avec le secteur public dans le passé. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la data dans le secteur public, de ce que t'as vu?
Alors, je dirais que dans le secteur public, une grosse différence, c'est que les choses sont beaucoup plus centralisées en général, par nature. C'est-à-dire que pour le coup, souvent, c'est dans une structure, il y a une grosse DSI qui va un peu centraliser toutes les décisions d'un point de vue informatique. Et ça se traduit au niveau, au niveau informatique par des applications plutôt monolithiques avec une grosse, des grosses bases de données et qui sont un peu immuables et difficiles à bouger. Donc, je dirais que dans le secteur public, il y a un enjeu justement à faire bouger un peu ces grosses structures historiques et les faire aller vers des nouvelles technologies qui soient plus agiles, plus modulaires et qui permettent de faire plus d'innovation, d'expérimentation. Et à côté, du coup, le truc, c'est que le secteur public aussi a commencé à monter des structures un peu innovantes, data lab, des choses comme ça, quoi, pour pousser des use cases. Et donc, du coup, donc il y a quand même une forme de conscience qui commence à se développer sur le sujet, d'awareness. Mais du coup, c'est un peu rejoindre les deux trucs, quoi. C'est-à-dire l'IT à l'ancienne, en fait, où on construit des applications qui sont peut-être un petit peu faillies parce que très monolithiques et pas forcément hyper évolutives ou modulaires. Et faire parler ce monde-là avec le monde, du coup, un peu de l'innovation, où on commence à faire des POC un peu à droite à gauche, mais en fait, c'est pas hyper industriel parce qu'en fait, on parle pas suffisamment avec l'IT à l'ancienne qui a l'habitude de faire de la prod depuis des années, quoi.
Et donc, on termine sur un problème d'adoption à la fin d'époque.
Ouais, exactement, d'adoption, je dirais, et puis également de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas forcément à bien le pousser en prod intelligemment, on n'a pas les bonnes compétences, quoi. Et effectivement, à la fin, c'est l'utilisateur qui souffre de ça, et donc c'est un problème pour nos produits et nos applications.
Merci Victor.
Merci Marc, merci pour l'accueil.
Merci d'avoir écouté Data Driven 101. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Adrien Fenech, président de Estimeo, pour nous parler de son expérience avec la data. À très vite.